Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
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 Il y a quelques semaines de cela, j'avais partagé un message sur l'imputation à justice. Et je vais résumer un petit peu parce que je vais vous donner le schéma de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et l'imputation à justice, c'est croire ce que Dieu nous dit, les promesses qu'il fait, ça nous est imputé à justice. Et ces choses vont se réaliser. Mais il y a une deuxième phase qui est tout aussi importante que cette première-là. Parce que sans la foi et l'imputation à justice, il n'y aura pas de manifestation, quelle qu'elle soit. Mais sans cette deuxième phase, qui s'appelle la circoncision du cœur,
oui,
eh bien, il n'y aura rien non plus. Donc, brièvement, je vais vous redire un petit peu ce qu'est l'imputation à justice. On le voit vraiment clairement dans la vie d'Abraham, dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et ça, c'est un principe de la foi. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par notre foi que nous verrons les plus grandes choses de Dieu manifestées dans nos vies. L'apôtre Paul reprend ce passage dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, versets 20 à 24. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Amen. Ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icyubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Nicyo cyatumye bimuharugwa ko nk'ukugororoka, ariko ntibyandikiwe we wenyine yuko yamuharuwe ko nk'ukugororoka, yuko byamuharuwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharugwa ko nkako, kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye.
Même si Abraham a eu des moments de faiblesse,
nubwo Abraham yaciye mu bihe
by'intege, même s'il a commis des erreurs, parce qu'il en a commis, même si quand Dieu lui a dit tu vas avoir ce fils l'année prochaine, Abraham a ri. Vous savez, Dieu n'a pas mis ces choses devant.
Amen.
C'est pour ça qu'il est dit d'ailleurs dans Sophonie, il garde le silence dans son amour.
Ce
que Dieu a mis en avant,
c'est
la foi, C'est la foi d'Abraham.
No kwizera Aburahamu yagize.
Et il est dit, il ne douta pas, il ne douta point, mais il fut fortifié par la foi.
Ngo ntiyakekeranya. Ariko ngo ntiyakekeranya.
Il fut fortifié en donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire en louant Dieu, en donnant gloire à Dieu pour cette promesse. Il fut fortifié dans sa foi et cela lui fut imputé à justice. Ça, c'est la première étape. Et c'est une étape par laquelle, c'est un principe spirituel par lequel nous passons tous. Donc parmi, bien sûr, ça concerne les personnes qui sont nées de nouveau. Parce que nous savons que Dieu a un plan pour le salut de quiconque croit. Mais avant que ce plan puisse se mettre en action, on a besoin de croire et de naître de nouveau. Déjà parmi tous les croyants, il y a peu de personnes qui sont suffisamment attentives à Dieu et aux choses de Dieu ou qui sont désireux de marcher avec Dieu tout simplement. Il n'y a pas tant de personnes que cela qui sont prêts à écouter ce que Dieu a leur dire. Et parmi ceux qui entendent ce que Dieu a à dire, il y en a qui veulent et il y en a qui ne veulent pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a des années de cela, un jeune homme aux États-Unis qui a reçu le Seigneur et qui marchait vraiment avec Dieu. Mais il s'était mis en tête que Dieu voulait l'envoyer en Chine. Et ça le travaillait. Et au fond de son cœur, il n'était pas d'accord avec cette idée. Il était en train de lutter, de résister contre cette idée d'aller en Chine. Et au bout d'un moment, il a commencé à rétrograder parce qu'il n'avait aucune intention d'aller en Chine. Entre guillemets, cette situation s'est trouvée devant lui en tant que test. Comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il est prêt à suivre Dieu, à marcher avec lui, même jusqu'en Chine? Et ce garçon n'était pas prêt à cela. Et au bout d'un moment, il a rétrogradé, il aimait toujours le Seigneur, mais il n'allait plus à l'église. Parce qu'il ne voulait vraiment pas aller en Chine. Et quelques années plus tard, il s'est repenti. Il est revenu à Dieu de tout son cœur. Et il a dit à Dieu, même, d'accord, tu veux m'envoyer en Chine, Seigneur, je suis prêt à aller en Chine. Et le Seigneur lui a dit, mais je ne t'ai jamais dit que tu devais aller en Chine. Et ça a vraiment créé un choc dans son cœur. Parce qu'il a compris qu'il n'était pas prêt à faire tout ce que Dieu lui demanderait de faire de toute façon. Amen. Amen. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de ce que Dieu a pour leur vie. D'autres qui ne sont pas prêts de toute façon à faire ce que Dieu leur demandera de faire. Il y a ceux qui entendent la voix de Dieu, qui veulent marcher avec les promesses de Dieu. Mais entre le moment où Dieu nous parle et le moment où ces choses s'accomplissent, il y a un temps. Il y a un temps, plus ou moins long, mais souvent assez long, parce que nous ne sommes pas du tout prêts à entrer dans les choses que Dieu a pour nous. Si tu as été sauvé la semaine dernière, et que Dieu a mis un appel dans ta vie, sache qu'il faudra entre 10 et 15 ans avant que cet appel soit manifesté. Et si tu veux marcher dans ces choses, ben, tu vas marcher par toi-même. Et quand on essaye de précéder Dieu dans les choses qu'il nous promet de faire, on fait exactement la même erreur qu'Abraham quand il a fait Ismaël. Amen. Donc Dieu parle à Abraham. Il lui fait des promesses. Et il va renouveler ses promesses un certain nombre de fois. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, ça c'est le début, c'est la première fois que Dieu parle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen.
Amen. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Naje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazuguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imijyango yose yo mu isi izohezagirirwa izohegwa umugisha.
Il y a dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3.
Hariho muri Petero wa mbere kabiri gatatu.
Un passage qui est parallèle à ce passage là d'ailleurs.
Igisoma gisani kidoje gusoma.
Où il est dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Tu vas lire le verset 4.
Petero wa kabiri gice cya mbere murongo wa kane. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vyakabura rugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika muva mwiborero ryazanwe mwisi no kwifuza.
Quand on parle de promesses, il faut comprendre qu'il y a deux types de promesses. Il y a les promesses générales de la parole de Dieu auxquelles nous pouvons accéder vraiment directement et facilement. Par contre, il y a de l'autre côté les promesses personnelles que Dieu nous fait. Et les promesses que Dieu m'a faites ne sont pas les mêmes que celles que Dieu peut faire à Alice ou à qui que ce soit ici. C'est différent. Donc, pour ce qui concerne les promesses que le Seigneur fait à Abraham, ce sont ici des promesses personnelles. Et les promesses qui concernent ses descendants. La promesse personnelle, c'est la naissance de son fils. Et cela est dit dans Genèse chapitre 12, comme nous venons de le lire. Mais c'est rappelé dans Genèse chapitre 13, verset 14. Puis encore dans Genèse chapitre 15, verset 5. Et enfin dans Genèse chapitre 17 verset 2. Vous savez, quand Dieu nous fait des promesses qui concernent notre avenir, ce sont des choses qui sont précieuses, qui sont extrêmement importantes.
Amen.
Parce que nous pouvons passer à côté en faisant autre chose ou en se faisant des idées par rapport à ce que Dieu nous dit et se tromper de chemin.
Et
je vous assure, dans notre vie, s'il y a une chose que nous n'avons pas, c'est du temps. Amen. Nous n'avons pas de temps. 50 ans, 80 ans, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, ça ne représente pas grand-chose. Donc si nous ne sommes pas attentifs à la volonté de Dieu, aux promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu sont toujours en rapport avec sa volonté. La volonté de Dieu pour ce qui concerne Abraham, c'était de lui donner un fils pour que de sa descendance puisse venir le Messie. Ça, c'était le plan parfait de Dieu. Peut-être qu'Abraham ne voyait juste qu'un fils. Et c'est souvent ce qui se passe avec nous, les hommes. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et on doit comprendre que les promesses de Dieu sont liées au plan de Dieu.
Et que
ce n'est pas un choix que nous avons à faire. Qui sommes-nous pour se dire, oh, ben, je vais réfléchir, Seigneur. Tu me fais ce genre de promesses. Tu as ce genre de volonté pour ma vie.
Oui,
c'est pas mal, hein, mais ça pourrait être mieux. Je vais y réfléchir. Quand on a ce genre d'attitude, ça montre qu'on ne connaît ni Dieu ni les choses de Dieu. Et si le Seigneur dit de ce genre de choses, c'est qu'il y a une raison derrière. Et cette raison, elle est en relation avec son plan. Vous savez, le plan de Dieu, c'est quelque chose d'immense, de très vaste, dans lequel nous avons un rôle. Nous avons une part. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu, si tu ne rentres pas dans les choses de Dieu, ne t'en fais pas, le plan de Dieu ne va pas échouer. Mais tu vas être privé de quelque chose de grandiose. Tu vas être privé de la manifestation, de la révélation de Dieu puissante dans ta vie. Tu vas être comme les joueurs qui sont des remplaçants. Vous savez, dans toutes les équipes de sport à ballon, football, handball, volleyball et tous les balls, il y a les joueurs actifs sur le terrain et il y a ceux qui sont assis sur le banc des remplaçants. Et vous savez, les remplaçants, ils sont assis comme ça, ils
ne
sont pas assis en train de se dire, ah, c'est bien, je vais quand même être payé à la fin du mois juste pour avoir regardé le match. Qu'ils se débrouillent là-bas. Moi, je me repose. Et en plus, je suis assis en première loge. Les remplaçants, ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme ça. Alors, c'est quand mon tour. Et si tu es assis sur le banc des remplaçants, ton tour, ça peut être dans longtemps. Ça peut être dans longtemps. Amen. J'espère que vous avez ce désir de jouer le match aux premières lignes. Parce que c'est là que c'est intéressant. Amen. C'est là où on voit Dieu. Il n'a jamais dit que ça serait facile. Par contre, il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je dis aussi que c'est non seulement, peut-être pas facile, mais intéressant et passionnant. Donc, pour en revenir à Abraham, Abraham a reçu des promesses personnelles concernant la venue de son fils. Abraham n'était pas un homme parfait, comme je vous l'ai dit. D'abord, il est monté en Égypte quand Dieu ne lui a pas dit de le faire à cause de la famine, premièrement. Deuxièmement, il a fait passer sa femme pour sa sœur. Ce n'était qu'un demi-mensonge ou une demi-vérité. Est-ce que vous savez qu'un demi-mensonge, ou si vous préférez une demi-vérité, est tout simplement un mensonge? Une chose est soit vraie, soit fausse. Elle ne l'est pas à moitié, elle est soit vraie, soit fausse. Donc il a commis ce péché, il a passé sa femme pour sa sœur. Et la Bible ne nous donne pas tous les détails, mais je vous assure que cette histoire a été très loin. Non pas avec Pharaon, mais avec Abimelech en tout cas. Et la deuxième erreur, c'est Ismaël. Amen. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Dieu nous pardonne nos erreurs. Nos erreurs de compréhension. Parce que nous sommes des hommes, on ne comprend pas toujours tout. Des fois, on se trompe. Et des fois, comme ça nous impressionne et que ça nous fait un peu peur, on peut commettre certaines erreurs.
Mais
Dieu est un Dieu de pardon, il ne se repent pas de ses plans.
Il ne se repent pas
de ses dons. Et s'il l'a fait pour Abraham, il peut le faire pour chacun de nous. Donc, après tout ce temps, il y a un événement extrêmement important pour que la promesse puisse se réaliser. Et bien sûr, nous n'allons pas le voir sur un plan naturel. Parce que la circoncision, c'est une image spirituelle. Et je vous rappelle que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir.
Amen.
C'est une ombre, c'est une image pour que nous puissions comprendre les choses à venir, les choses spirituelles. Donc dans Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis.
Iri ni ryo sezerano ryanje muzokwama mushitsa riri hagati yanje namwe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe muze mukebe.
On va lire ensemble dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 16. J'espère que vous êtes prêts à tourner les pages de votre Bible ce matin.
Hébreux chapitre 10,
verset 16. Qui nous dit la chose suivante. Voici l'alliance que je ferai avec vous. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il y a ce que l'on appelle, et tout le monde connaît, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand tu te repens de tes péchés et que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel.
Amen.
Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais ça, c'est le début du chemin.
Amen.
Amen. Notre nature pécheresse est retirée de notre cœur. Nous recevons Jésus comme notre sauveur personnel. Mais ensuite, il y a tout un travail. Et ce travail ne peut être fait que, bien sûr, par le Saint-Esprit. Un travail de purification, un travail de sanctification, un travail où, finalement, dans notre cœur, ce n'est plus la loi du monde, ce n'est plus la loi du péché, mais c'est la loi de Dieu.
Amen.
Et vous savez comme moi que certains enfants de Dieu acceptent ce travail dans leur vie, d'autres non. Mais si tu n'acceptes pas ce travail de Dieu dans ta vie, si tu n'acceptes pas la circoncision de ton cœur, c'est-à-dire qu'il soit retranché de toi tes anciennes façons de penser, tes anciennes façons de raisonner, les choses qui au-dedans de toi n'étaient pas droites, il faut qu'elles soient redressées. Et parfois, ça prend du temps, bien sûr. Et surtout, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est comme une opération chirurgicale. Ceux qui ont déjà été opérés, ils savent que l'opération fait mal, mais qu'elle est nécessaire. Et c'est l'image de cette circoncision de cœur sans laquelle tu ne pourras jamais entrer dans les choses que Dieu a pour ta vie. Parce que quand Dieu nous fait ce genre de promesses, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas pour nous honorer, c'est pour se glorifier. Mais il faut que l'instrument par lequel ces promesses vont se manifester, vont se concrétiser.
Ariko bikwiye yuko icyo gikoresho kizotuma amasezerano ashika.
Soit saint et qu'il soit pur.
Kiba gitunganye cejejwe.
Amen.
Amen.
Ça c'est vrai pour le domaine de l'appel et du ministère de Dieu.
Uko niko bigenda no muhamagara uhamagara ibanga
ry'Imana. Il y a aussi une grande vérité et là ouvrez bien vos oreilles.
Ariko harimo n'ukuri gukomeye hamumvirize neza.
Pour ce qui concerne les promesses que Dieu vous a faites. Dans certains domaines, pour les choses pour lesquelles vous priez ou vous demandez à Dieu d'agir, de la même manière, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu es quelqu'un qui cherche du travail, parce qu'on parlait de cela tout à l'heure. Tu n'as pas de travail. Et tu pries Dieu et tu as cette vision vraiment de, d'avoir le meilleur de Dieu. Et c'est une bonne vision, c'est un bon désir. Mais pour que ce désir puisse être réalisé, il va falloir que plusieurs choses se produisent. D'abord, comment est-ce que tu pourrais te retrouver directeur général d'une entreprise si dans ta vie tu n'as fait aucune étude, que tu n'y connais rien? Vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des postes importants et qui n'y connaissent rien. Vous voyez un peu le résultat que ça produit. Et Dieu ne va pas par un coup de baguette magique te propulser dans une place juste parce que tu as prié pour ça ou juste parce qu'il te l'a promis. Parce que si ça arrive du jour au lendemain, tu ne seras pas une bénédiction. Alors que Dieu veut que tu sois une bénédiction. Donc s'il y a dans ton cœur un rêve, une vision, un désir, il y a quelque chose que toi tu peux faire et te préparer dans le domaine naturel pour ce qui concerne le domaine professionnel. Tu sais que, et tu dois le faire. Amen.
Amen.
Ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose. Si ton caractère n'a pas été transformé, si tu es malhonnête, menteur, feignant, que tu te permets de t'absenter du bureau pendant les heures de travail. Vous savez, quand on est au travail, à moins de demander la permission, donc si on demande la permission, c'est normal, mais si on ne la demande pas, tu es à ton travail, tu quittes ton bureau pour aller faire tes courses pendant toute la matinée. Si tu fais ça, tu es en train de voler ton patron. Parce qu'il te paye pour faire ce travail et il te paye pour être là. Donc s'il y a dans ta vie, dans le domaine professionnel, toutes ces faiblesses, voire même ses péchés, comment peux-tu espérer, même si tu as le meilleur des diplômes, que Dieu te donne le meilleur des travaux? La question n'est pas de dire que ça se mérite, parce que la bénédiction de Dieu ne se mérite pas. Mais comme Dieu est un Dieu de bénédiction, il ne va pas te prendre, toi qui es une source de problème, pour te placer quelque part afin que tu deviennes quelque part une source de problème. Parce que Dieu veut bénir les patrons, amen. Il veut bénir les entreprises et il veut donner les meilleurs afin que le travail se fasse bien. Amen.
Amen.
Donc tout ce temps, entre le moment où tu commences à prier ou le moment où Dieu te dit je vais te donner le meilleur, il y a des choses que toi tu dois faire pour t'y préparer d'une part, et il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie, un travail de circoncision afin que tu sois un objet de bénédiction. C'est vrai dans le domaine professionnel. C'est C'est ô combien vrai dans le domaine du mariage.
Il
y a certaines personnes ici, vous n'êtes pas encore
mariées.
Surtout les filles, vous dites, Seigneur, donne-moi le meilleur des maris. Et la question que je te pose, tu veux le meilleur des maris, c'est bien.
Mais
seras-tu la meilleure des épouses? Parce que si tu dois devenir une malédiction pour ton mari, je ne vois pas comment Dieu va te répondre. Je dis pour la fille, mais c'est exactement pareil pour le garçon. Si tu dois devenir une malédiction pour cette charmante, belle jeune fille qui aime Dieu de tout son cœur, ça n'arrivera pas. Est-ce que vous savez qu'il y a peu de personnes, il y en a, mais peu, qui reçoivent le meilleur dans le domaine du mariage? Et une des raisons pour cela, c'est que le désir de leur cœur est égoïste. Si tu es égoïste, Dieu ne pourra pas donner le meilleur. Je veux une femme qui gagne sa vie, qui sait coudre, cuisiner, repasser et qui me donnera des enfants. Ça, c'est extrêmement égoïste. Amen.
Amen.
D'ailleurs, si c'est ce que tu veux, je te conseille d'engager une bonne. Mais par contre, si dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux une femme avec laquelle je vais te servir. Une femme qui te connaît. Une femme qui est droite. Une femme qui a un cœur pour toi, Seigneur. Une femme qui est capable de te mettre en priorité. Qui est capable de te faire passer avant elle. Qui est capable de te faire passer toi, Seigneur, avant même moi. Une femme qui sera capable de mettre au monde des enfants. Pour les éduquer dans le Seigneur. Ça, c'est un bon désir.
Amen.
Si tu veux ce genre d'épouse, je dis gloire à Dieu. Et si toi qui es une jeune fille, tu désires avoir un mari avec lequel tu vas servir le Seigneur de tout ton cœur, ton mari que tu vas respecter, que tu vas écouter, dont tu vas suivre les directives. Ça, c'est un bon désir.
Amen.
Mais si l'un ou l'autre sont négligents, paresseux, impolis, vous voyez de quoi je parle, insupportables, invivables, comment tu peux demander à Dieu de te donner son meilleur? Parce que ce charmant jeune homme ou cette charmante jeune fille qui est le meilleur de Dieu, Dieu ne veut pas que ces personnes soient abîmées à cause de ton mauvais caractère.
Dieu
ne veut pas qu'il souffre parce que tu es feignant et que tu es incapable de prendre ta vie en main et de travailler. Oh Seigneur, merci pour ma charmante et meilleure que tu me donnes. Et la charmante et le meilleur, elle va s'asseoir dans une maison vide où il n'y a rien à manger. Et en plus, tu risques de lui jeter tes chaussures à la figure. Dieu te donnera jamais cette fille-là. Elle n'est pas pour toi. La meilleure est pour le meilleur. Amen. Et le meilleur est pour la meilleure. Et pour la gloire de Dieu. Alors plutôt que de te précipiter sur la première ou le premier venu, cherche Dieu de tout ton cœur et prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour un bon mariage. Prépare-toi pour servir le Seigneur. Prépare-toi financièrement. Et prépare-toi surtout dans ton cœur. Et dis au Seigneur, dès aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ton meilleur. Alors s'il y a la moindre chose au-dedans de moi qui doit changer, je t'en supplie, Seigneur, fais-le. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à renoncer à tout ce que je dois renoncer. Je suis prêt à tout pour obtenir ton meilleur. Et le Seigneur va te montrer, tu vois ici, là, tu n'as pas bon caractère.
Et
vous savez, on ne peut pas se changer soi-même. Amen. On ne peut pas. Mais tu peux crier à Dieu. Tu peux t'humilier devant Dieu. Et c'est là où Dieu va agir dans ta vie. Couper en toi ce qui doit être coupé. Et je vous assure que ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui, ça fait du bien demain. Amen.
Amen.
On a vu que c'est vrai dans le domaine professionnel. On a vu que c'est vrai dans le domaine du mariage. Et ça, c'est une grande vérité dans tous les domaines de toute manière. Je vous rappelle une chose. D'abord, on va lire dans Romains chapitre 2, verset 28. Et 29. Romains chapitre 2, verset 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen.
Amen. Kuko mu Yuda wo kurukoba atari we mu Yuda kandi gukebwa ko kurukoba ko kumubiri atari ko gukebwa ariko mu Yuda wo mu mutima ari we mu Yuda kandi gukebwa nuko umutima nuko mu buryo bw'impemu atari uko mu buryo bw'inyuguti umeze atyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana.
Vous savez, ici il y a quelque chose vraiment de très important. Parce que tout ce que je viens de vous dire est vrai, est scripturaire et biblique. Mais tout ce que je viens de vous dire ne peut pas être accompli par l'homme. Parce que si tu essayes par toi-même de faire ces choses, tu le fais selon la religion, selon la lettre, selon, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut parler comme ci, il faut s'habiller comme ça. Et dans la lettre, il n'y a pas de vie. Il y a seulement l'autosatisfaction d'avoir appliqué et réalisé quelque chose. Ici, il est dit que c'est la circoncision, celle du cœur selon l'esprit. Amen.
Amen.
Et que la louange, quand on parle de ce juif, on parle ici de celui qui connaît Dieu, qui a une alliance avec Dieu, qui marche avec Dieu. Donc ça vous concerne et ça me concerne. Elle ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Et là, il y a encore vraiment une chose importante. Vous savez, on fait trop souvent des choses pour être aimé des hommes, pour être approuvé, pour qu'on dise, ah, vraiment celui-ci, ah, vraiment celui-là, celle-là, c'est quelqu'un de bien.
C'est...
Et souvent, on agit de cette manière-là parce qu'on recherche l'approbation des hommes. Mais nous devons faire les choses pour, dans le but de recevoir l'approbation de Dieu. Vous savez, il faut savoir mettre les choses à leur place dans notre vie. Permettre à l'Esprit de Dieu de nous changer. Et pour que nous puissions le lui permettre, nous devons le comprendre. Et pour que nous puissions le comprendre, il faut arrêter de rejeter sur les autres nos erreurs. Dire, ah, oh, mon père est horrible. Ma mère est méchante. Mon mari est terrible. Mes enfants sont insupportables. Mon patron, c'est un vrai tyran. Regarde autour de toi. Regardez-vous comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde dans tous les domaines. Mais dans certains domaines de leur vie, les autres ont ce genre de problème. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Nous sommes des hommes, nous vivons dans un monde imparfait de toute manière. Mais la façon dont nous réagissons en disant Seigneur, fais de moi une personne qui est capable de vivre même dans les milieux les plus difficiles en te donnant gloire, en étant juste, en étant quelqu'un selon ton cœur. Et ça, c'est l'attitude que Dieu recherche de chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que quand on a ce genre d'attitude, qu'il peut circoncire notre cœur, changer en nous ce qui doit être changé. Parce que dans le cœur de tout homme, il y a des choses qui doivent changer. Et nous devons bien le comprendre et surtout le désirer afin que nous puissions aller loin avec Dieu. Lisons aussi 2 Timothée chapitre 3 verset 5. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Il est dit... En parlant des personnes de ces derniers temps, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Nous ne marchons pas dans une religion. Nous ne vivons pas selon des apparences. Vous savez, on nous a éduqués depuis notre enfance. En tout cas, pour ceux qui avaient des parents qui n'étaient pas sauvés. On nous a éduqués à maintenir une apparence. Mais ce n'est pas biblique.
Amen.
Ce n'est pas biblique. Nous devons travailler au niveau de notre cœur et non pas au niveau de l'apparence. De manière à ce que finalement notre cœur et l'apparence soient en accord. Vous savez, quand nous avons démarré cette église, avant qu'on commence d'ailleurs, le Seigneur m'a parlé fortement en me disant, alors que le pasteur Olivier était en train d'enseigner, j'étais assise dans la salle ce jour-là. Et il était en train d'expliquer les noms de Dieu de l'Ancien Testament. Et quand il en est arrivé au nom de El Shaddai, El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-suffisant qui pourvoit comme une mère pourrait pourvoir aux besoins de son enfant. J'ai compris vraiment dans mon cœur que c'était le nom que Dieu voulait pour cette église. Parce que c'était un témoignage que les hommes avaient besoin de connaître pour leur propre vie. Mais El Shaddai, ça ne veut pas seulement dire cela. Ça veut dire aussi autre chose. Et j'aimerais que vous puissiez le saisir pour votre vie. El Shaddai, ça veut dire celui qui corrige en vue d'engendrer. C'est par cela qu'est passé Abraham. Amen.
Amen.
Il a été corrigé en vue d'engendrer. On va lire ensemble dans Job, chapitre 5, versets 17 et 25. Job, c'est juste avant les psaumes. Job, chapitre 5, verset 17, et ensuite nous lirons le verset 25. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Et ensuite au verset 25, il est dit, tu verras ta postérité s'accroître et les rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Amen.
Quand vous aurez eu curvière ou avoir usoguira, n'abagukomoka kobakaba givyati vyo mu misozi.
Et quand Dieu, entre guillemets, châtie, corrige, il circoncit le cœur de quelqu'un, c'est en vue d'engendrer. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 7 à 11, il nous est aussi parlé de la correction. Vous savez, nous ne devons ni refuser, ni fuir, ni mépriser la correction de Dieu parce que c'est salutaire pour notre vie. Ça nous permettra de voir la manifestation des plus grandes promesses. Hébreux 12:7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Écoutez bien. Afin que nous participions à sa sainteté. Amen.
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 Si nous pouvons participer à sa sainteté, si nous acceptons le châtiment, le changement, la correction qui vient de Dieu, vous savez, quand le châtiment vient des hommes, souvent il est démesuré. Ou inapproprié. Dieu nous corrige en vue de nous amener quelque part. Et si tu n'es pas capable d'accepter sa correction, tu ne pourras jamais entrer dans les promesses que Dieu a pour ta vie. Amen.
Amen.
Correction et punition sont deux mots différents.
Amen.
La punition, c'est quelque chose qui fait mal. C'est être frappé et corrigé. Ça veut dire être redressé. Vous savez, quand on est vraiment des personnes qui sont spirituelles, on aime la correction.
Amen.
Amen. Parce que vous savez, on peut mal faire quelque chose tous les jours de sa vie et mourir en le faisant encore mal. Amen.
Amen.
Et c'est fort dommage pour nous-mêmes et c'est fort dommage pour les autres. Mais si seulement nous pouvions avoir quelqu'un qui nous dise, tu sais, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, mais fais-le plutôt de telle manière et que tu l'acceptes et que tu le pratiques, ça va te donner de la joie, parce que d'abord tu vas moins te fatiguer, ensuite tu iras plus vite, et enfin troisièmement le résultat sera parfait, plutôt que de dire pour qui se prend celui-là? Pourquoi il me dit que j'ai mal fait? Vous savez, il faut sortir de cette mentalité. Amen. Il faut en sortir. Sinon, ça sera toujours médiocre de chez médiocre. Alors qu'on pourrait faire tellement plus. On pourrait faire tellement mieux. Acceptons la correction qui vient de Dieu. Et la correction qui vient des hommes. Amen.
Amen.
Si quelqu'un sait mieux faire quelque chose que toi, mais prends-en de la graine. Tire-en un enseignement. Plutôt que de t'énerver. Plutôt que d'être jaloux. Vous savez, si nous voulons progresser dans les choses de notre vie, ça tient souvent à juste une chose, un changement d'attitude. Donc pour en revenir à la circoncision du cœur, Abraham va être circoncis. Et je vous rappelle que c'est une image spirituelle. Et quand il est circoncis, il va recevoir un nom nouveau. Avant, il s'appelait Abram.
Mais
dit Abram, c'est pas grave, tout le monde comprend ce que je dis là. Avant, il s'appelait Abram.
Amen.
Abram, ça veut dire père élevé. Et au moment où il est circoncis, Dieu change son nom. Alléluia! Qui a envie d'avoir son nom changé? Quand je dis son nom, c'est pas le prénom, c'est pas le nom en tant que tel. Mais c'est ce que tu représentes. ce que tu es. Amen.
Amen.
Avant, j'étais Isabelle.
Era,
maintenant, je suis toujours Isabelle, bien sûr, mais
ora, Isabelle,
il y a quelque chose de nouveau dans ma vie qui n'y était pas avant.
C'est
ça que ça veut dire.
Amen.
Amen. Et je sais que dans vos cœurs, vous criez après cette chose nouvelle. Et il y a certains qui se disent, mais Seigneur, pourtant tu m'as dit ces choses. Seigneur, pourtant tu m'as promis ces choses. Seigneur, tu m'as montré des choses grandioses, un appel extraordinaire. Seigneur, tu m'as promis le meilleur des travaux. Seigneur, tu m'as promis le meilleur des maris ou la meilleure des femmes. Je
ne
la trouve pas, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il faut que je parte en Amérique? Peut-être je vais le trouver là-bas. À moins que je n'aille en Chine. Et le Seigneur te dit non. Je vais te l'amener moi-même. Quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt. Quand tu deviendras vraiment une bénédiction pour cette meilleure personne que je veux te donner. C'est vrai pour le mariage. C'est vrai pour le travail. Et à combien plus cela est vrai pour le ministère. Tu es appelé au ministère, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Tu fais une formation biblique, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, je vous assure, mes frères et sœurs, je suis en train de vous parler de quelque chose que je connais. Parce que je l'ai vécu. On est rempli d'illusions. On se fait des idées. Mais en réalité, on a besoin de changer. D'être préparé. Et moi, personnellement, je dis au Seigneur, s'il y a encore des choses dans ma vie qui sont des obstacles, non seulement j'accepte, mais en plus je te demande, non seulement je te demande, mais en plus je t'en supplie à genoux, taille ça en pièces maintenant. Amen.
Amen.
Donc Abraham, son nom a été changé en père élevé, de père élevé, pour devenir père d'une multitude. Et ce qui est bien, c'est que c'est Abraham qui a été circoncis, mais Sarah aussi a bénéficié du changement de nom. Amen. Elle s'appelait noble et elle est devenue princesse. Donc la circoncision du cœur, ça nous permet de passer du simple, bon, la nouvelle naissance, je rentre dans une relation avec Dieu, ça nous permet de passer de cela à une autre dimension qui s'appelle l'amitié avec Dieu. Vous savez, c'est après avoir été circoncis que Abraham est devenu ami de Dieu. Pour lire dans Genèse chapitre 18, je vais pas vous le, on ne va pas le lire ensemble parce qu'on a lu beaucoup de passages jusqu'à maintenant, mais dans Genèse chapitre 18, Abraham, enfin Dieu va dire à Abraham, cacherai-je, il va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham était devenu ami de Dieu. Vous savez ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on veut faire, nos projets. On les confie pas à n'importe qui, n'importe comment. Les choses qui te tiennent vraiment profondément à cœur. Quand tu marches dans la rue, tu ne vas pas arrêter le premier venu et lui dire, tu sais vraiment, voilà ce dont je rêve. Voilà ce que je désire. Tu ne vas pas faire ça. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce que l'autre, il va te regarder et il va te dire, bah, tant mieux pour toi. Et il va continuer son chemin. Mais tu partages ton cœur avec ton ami, avec celui qui te connaît, avec celui qui te comprend. Et si vous voulez comprendre Dieu, Si vous voulez le connaître, si vous voulez devenir ses amis, vous devez passer par cette circoncision de cœur. Sinon, vous abordez les choses de Dieu avec vos idées personnelles. Et vous savez comme moi que la Bible dit que Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes façons d'agir ne sont pas les vôtres. » Ça veut dire que sans passer par cette circoncision de cœur, vous ne pourrez jamais comprendre vraiment qui est Dieu. Parce que vous le verrez toujours à la lumière de vos idées, de vos pensées, de vos expériences. Et c'est là qu'on est grandement dans l'erreur. Jésus a dit, et je vais terminer avec cela, dans Jean 15, on ne va pas le lire non plus, mais vous pourrez le lire à la maison. Il a dit à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Si vous faites ce que je vous commande. Vous savez, les appels de Dieu, les dons de Dieu sont sans retour. Dieu ne se repent pas de ses dons. Ses promesses sont oui et amen.
Amen.
On ne peut pas les mériter. On ne peut pas les produire. Mais on peut permettre à Dieu de nous changer, de nous préparer, de nous travailler afin que nous entrions dans ces choses. Vous savez, nous vivons dans une époque où l'Église a besoin de revenir dans ces vérités, sortir de « Oh, le petit Jésus qui m'aime, qui me berce, qui me caresse et qui me donne des bonbons. » Ça, ce n'est pas l'Évangile.
Amen.
Ce n'est pas l'Évangile. D'abord, nous ne sommes pas des bébés pour avoir des besoins de bonbons, de caresses ou d'être bercés. Mais nous sommes des hommes et des femmes de Dieu et nous voulons voir sa gloire. Moi, je veux voir la gloire de Dieu comme l'apôtre Paul a vu la gloire de Dieu. Je veux voir sa puissance en manifestation. Je veux voir des miracles. J'en ai déjà vu, mais j'en veux voir. Je veux en voir bien plus. Amen. Parce que je suis en train de vous dire comme si j'avais rien vu, mais j'ai vu beaucoup de choses. Des choses dont je vous ai parlé, des choses que vous ne connaissez pas. Parce que les miracles, ce n'est pas ce qui est là pour faire notre promotion. Vous savez, ça c'est encore un problème de chair. La chair dit, moi, je suis un grand serviteur de Dieu. Et on vient avec sa carriole remplie de miracles. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça au travers de moi. Et je vous assure que quand on a ce genre d'attitude, dans 6 mois, dans 1 an, Dieu ne fera plus jamais rien au travers de toi. Mais fais de moi un instrument. Change dans ma vie tout ce qui doit changer afin que ta puissance et ta gloire puissent être manifestées. Parce que je vous rappelle une chose, nous sommes les héros de la foi de notre génération et ça ne tient qu'à nous.
Amen.
Ce n'est pas Dieu qui pourra faire ces choses par force. Dieu ne pourra jamais t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Mais ta génération peut être gagnée ou perdue pour Christ. Et ça dépend de toi. Amen.
Amen.
Il y a un prix à payer, un prix de consécration, un prix de transformation.
Mais
soyons intelligents.
Amen.
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 Si tu es prêt à payer, moi je ne sais pas, 150 000 dollars pour une maison, ou je
ne
sais pas, 100 000 dollars pour une voiture, ou je ne sais pas, des prix pareils, pour des choses qui ne durent pas. N'es-tu pas prêt à payer le prix du changement dans ta propre vie pour des choses qui auront un poids éternel de gloire? Parce que je vous assure, je vous rappelle, nous sommes sur cette terre pour peu de temps. Mais après, la terre, ce n'est pas fini.
Amen.
Ce n'est pas fini. Soit nous régnerons avec Christ, Ou soit nous serons assis là quelque part sur le banc des remplaçants en train de regarder les autres. Moi je veux être participant, je ne sais pas ce qu'il en est de vous.
Et
le prix à payer est moindre par rapport aux résultats produits. Et je pense et je vais terminer avec cette phrase. Ce qui est important, c'est que nous soyons des personnes qui plaisent à Dieu, qui font sa volonté, qui aiment son onction et qui mettent les plans de Dieu chéris dans nos cœurs. En premier, pas en deuxième, en premier.
On
va prier ensemble. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu nous as parlé au cœur. Des choses peut-être nouvelles pour certaines personnes, peut-être compliquées pour d'autres. Moi, j'ai confiance dans ton esprit qui révèle et qui éclaire tout homme afin qu'il ait vraiment cette compréhension pour qu'il puisse rentrer dans ton meilleur, oui, dans un autre niveau, dans une autre dimension. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, au travers de nos vies. Que tu sois véritablement glorifié, Seigneur. Et que tu puisses faire tout ce que tu veux. Nous voulons être des éléments utiles dans ta moisson, dans ton plan pour cette génération. Oui, nous voulons être utiles, Seigneur. Nous ne voulons pas juste être là, mais nous voulons travailler. Et être utiles. Travailler avec une vie changée. Une vie transformée par ta grâce. Merci de changer en nous ce qui doit changer. Afin que nous puissions hériter de toi le meilleur. Afin que nous soyons rendus capables d'engendrer tes œuvres. D'engendrer ta volonté sur cette terre. Parce que c'est de cela dont il est question.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.